Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI comme chaque jour pour parler de football et aujourd'hui de Thierry Henry, bientôt bordelais, c'est la question. Son arrivée sur le banc des Girondins serait imminente selon nos confrères de la presse hexagonale. Un bon choix pour l'actuel adjoint du sélectionneur de la Belgique qui avait joué contre la France en Coupe du Monde. Une question qu'on se posera, on se demandera aussi s'il signe bien dans ce club de Bordeaux en passe d'être vendu à des investisseurs américain. En tout cas, le meilleur buteur des Bleus à ce jour serait le cinquième de l'équipe qui offrit la première étoile de champion du monde à la France à devenir entraîneur. Entraîné en Première Ligue, c'est l'aventure que vit au quotidien depuis le 1er juillet dernier Jacky Bonnevet, ancien adjoint de Wahid Halilhodžić, coach Vahid, au Japon, devenu l'adjoint de Claude Puel à Leicester. En direct dans Radio Foot tout à l'heure, Jacky Bonnevet nous racontera son travail dans ce club du nord de l'Angleterre. Vainqueur du championnat, c'était en 2016. La Chine, un Eldorado ou un enfer? En tout cas, le pays dont on revient. Les joueurs y partent, la fleur au fusil et surtout un gros chèque en poche. Mais finalement, ils sont de plus en plus à rentrer au bercail pour poursuivre une carrière qui leur a semblé s'effriter sous leurs crampons dans l'empire du milieu. Dernier à effectuer leur retour, Gervinho, Mbia et Witzel. Et il y en aura sans doute d'autres. Pour évoquer ces sujets du jour, Philippe Doucet, notre confrère de Canal+. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Merci de revenir dans Radio Foot avec à vos côtés Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie, salut Philippe et bonjour au troisième larron.
Un shérif pour vous départager, pour faire la part des choses. Bonjour shérif Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre confrère de SoFoot. Radio Foot, c'est parti.
Dites-moi pas que c'est pas vrai! Thierry Henry! Vous êtes Thierry Henry de chez les Thierry Henry là?
Thierry Henry can break away. Henry to win it for Arsenal to the edge of the penalty area. Cuts back. Henry goes back onto his left. Long drive! Yes! Henry's done it!
Thierry Henry de retour sous les drapeaux, de retour en France sous le drapeau français. La nouvelle enflamme les réseaux sociaux depuis que ce matin nos confrères d'RMC assurent que l'actuel adjoint du sélectionneur des Diables Rouges a dit oui au dirigeant du club bordelais. Quel dirigeant peut-on se demander d'ailleurs, car le club des bords de la Garonne est en vente et la signature du rachat par un fonds d'investissement américain n'aura lieu que dans un mois. Mais le championnat a commencé et par deux défaites pour les Girondins qui sont sans entraîneur depuis la mise à pied de Gustavo Poyet, l'Uruguayen, en poste depuis 7 mois seulement. Alors, pour ce qui est de l'idée que Thierry Henry aille entraîner le club de Bordeaux, surtout le club où passa notamment Laurent Blanc, ex-champion du monde, est-ce que c'est une bonne idée pour vous de dire oui pour Thierry Henry, Philippe Doucet?
Moi, je serais plutôt enclin à dire oui. D'abord,
c'est si on vous demandait à vous.
Oui, non, je veux dire, c'est une bonne idée pour la Ligue 1. Et je trouve que pour Thierry Henry, on peut ergoter un peu plus, on peut réfléchir un petit peu plus, mais je trouve que c'est pas un mauvais choix. Il faut quand même se rappeler que les trajectoires à la Zidane, parce que je suppose que certains vont dire, faut commencer par Arsenal ou choses comme ça. Les cas comme Zidane sont très très rares. C'est assez rare et c'était vraiment exceptionnel parce que Zidane était à l'intérieur du Real Madrid.
D'ailleurs, on se demande
mais
comment il peut en rebondir.
En plus,
on a
proposé Bordeaux à Zidane.
Oui, en plus, clin d'œil. Mais on ne débute pas. Enfin, c'est très rare qu'on débute comme Zidane par un club de très haut niveau. Et dans ce sens-là, Bordeaux, qui est un club assez facile pour les entraîneurs, contrairement à la période vraiment depuis un an que nous vivons.
Facile pour les entraîneurs, ouais, c'est quand même 6 entraîneurs depuis le titre en 2009.
C'est vrai. Non, mais il y a une accélération là. Ça va pas bien depuis Sagnol. Ça va pas très très bien. Mais c'était traditionnellement un club très très calme et une terre relativement facile pour un entraîneur. Il ne peut faire que des choses plutôt bien. La seule chose, évidemment, c'est que, et je suppose que ce sera à la base de l'accord, s'il y a accord, c'est qu'il faut que le club donne des engagements très forts à Thierry Henry. Il peut pas se permettre d'entraîner une équipe aussi banale que celle de Bordeaux à l'heure actuelle.
Mm-hmm. Xavier Barré.
Oui, je suis assez d'accord avec Philippe, comme souvent d'ailleurs. Mais je dirais
pas qu'un dernier mot.
À mon avis, ce qui se passe, c'est que, si Thierry Henry vient, c'est aussi parce que les investisseurs américains, le groupe GAPC le veulent parce qu'ils veulent un entraîneur qui soit un lien entre les États-Unis et la France.
Et il parle anglais.
Et qui parle anglais. Donc Thierry Henry a joué aux États-Unis. Il a longtemps joué en Angleterre. Il parle parfaitement anglais. Il était même consultant pour la chaîne Sky ces dernières années. Donc là, c'est déjà un bon point. Ensuite, il a une image en France. Alors ça, on en parlera peut-être, qui est pas forcément aussi zidanesque qu'on pourrait l'imaginer. Mais ça reste quand même un champion du monde, un grand champion. Et les gens ont du respect pour lui. Ils l'aiment pas toujours parce que c'est vrai qu'il avait une forme d'arrogance qui parfois le rendait un peu moins populaire qu'il aurait pu l'être, mais il a quand même
c'est le meilleur buteur à ce jour de l'équipe de France.
Oui, absolument.
Déjà,
donc
ça, c'est
il a un palmarès qui parle pour lui
et de respect.
Et puis,
oui.
Et puis ensuite cette légitimité va faire qu'il pourra obtenir des choix et du soutien financier notamment fort pour s'engager sur ce projet, parce qu'il est
son nom peut donner de la crédibilité au club.
Voilà, bien sûr, mais surtout, il va arriver avec un nouveau propriétaire dont il sera l'homme lige. Hein, donc à partir de ce moment-là, il pourra dire moi j'aurais besoin d'un peu d'argent pour investir, j'aurais besoin de tel joueur, je voudrais ci, je voudrais ça, et je pense qu'il l'obtiendra plus facilement que s'il était venu avec l'actuel propriétaire qui lui ne voulait plus mettre un centime dans les Girondins, et ce depuis longtemps.
Mmh. Mais en même temps, on ne sait pas trop à quoi ressemblera ce projet bordelais, parce que quand on voit autre exemple américain en France, c'est celui du côté de Marseille, ils sont pas toujours enclins à dépenser beaucoup.
Après, ils veulent se poser des questions quand même. C'est les Américains, ils viennent pour gagner de l'argent.
Mais oui.
Donc ils savent que les droits.
Ah, ils ont un stade.
Voilà, ils ont déjà un stade qui est magnifique. J'ai l'occasion d'y aller souvent puisqu'il se trouve que mes parents habitent à Bordeaux. Donc c'est un stade qui est magnifique, mais qui est malheureusement souvent vide. Donc là, il va falloir le remplir.
Je confirme.
Donc déjà avoir une équipe qui a des bons résultats et qui joue bien au football, ce serait une bonne chose. Ensuite, avoir un entraîneur qui provoque effectivement la curiosité, qui provoque la venue des gens, c'est un élément
lui,
important.
Mmh.
Et puis il y a un élément que vous évoquiez, Annie, qui est important. Je finis avant que Chérif intervienne. C'est que ce groupe américain dont on parle, effectivement GACP, c'est un groupe un peu mystérieux, mais il a le soutien d'un groupe financier extrêmement fort. Et c'est ce groupe qui s'appelle King Street, la route du roi, qui apporte les garanties financières qu'exigeait notamment la municipalité bordelaise.
Mais
et c'est pour ça que la vente ne s'est pas encore faite.
Pour acheter du vignoble.
Alors il y a. Il y a peut-être d'autres choses derrière, ça j'en sais rien, mais on peut pas les empêcher. Alors c'est vrai que c'est un raisonnement qu'on a souvent entendu, notamment de la part d'autres investisseurs potentiels venus plutôt d'Extrême-Orient, mais là ils viennent dans l'immédiat pour les Girondins. Et puis encore une fois, je répète, faut pas oublier que les droits télé de la Ligue 1 vont exploser en 2020, donc il y a quand même une perspective jusqu'en 2024.
Donc c'est cool, il n'y aura pas d'argent à dépenser.
D'avoir de l'argent déjà pour faire tourner la boutique. Donc je pense que c'est ça aussi qui amène les investisseurs.
Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, Chérif, le milieu du vin bordelais n'a jamais beaucoup aidé et beaucoup investi le club phare,
comme
de Bordeaux quand même.
Exactement.
Les agriculteurs ou les viticulteurs sont un peu prudents.
C'est à l'ancienne. Alors est-ce que c'est une bonne chose
pour Thierry Henry d'abord?
Non, parce qu'on est dans...
Alors vous êtes d'accord avec Dugarry, je lirai après sa déclaration.
Non, mais on est dans une année en neuf. Bordeaux gagne le championnat en 99, en 2009. Et en 2019, Thierry Henry ne gagnera pas le championnat. Donc déjà, rien que pour ça, par superstition, on ne va pas y aller.
Ça va être le PSG, c'est ça?
Non. Plus sérieusement, parce que faut...
Ouais, 6 points de retard, c'est foutu.
C'est foutu. Non, j'ai pas trop m'étendre. Il y a pas d'équipe à Bordeaux. C'est l'équipe moyenne, voire très moyenne.
Hein, toujours.
Oh là là, je l'ai vu, il m'a fait mal au cœur. J'ai adoré ce joueur-là. Et puis là,
36 ans.
Voilà. On a tous adoré ce joueur-là. Oui. Il a rendu d'énormes services à pas mal de... Enfin bref. Mais il y a pas d'équipe. C'est un peu le bateau ivre.
Parce qu'il n'y a pas qu'un ou deux joueurs qu'il faudrait acquérir.
Ah ouais, non, c'est toute une équipe, donc c'est extrêmement...
Je suis pas d'accord.
J'ai pas fini. C'est extrêmement casse-gueule quand tu t'appelles Thierry Henry, que tu prends un club, ou alors il est vraiment blindé au niveau du mental, il a d'énormes garanties, comme tu le dis, avec ce fonds de pension qu'il va racheter, Il a des assurances que justement des joueurs vont arriver, mais même s'ils arrivent, on est le 22 août, je veux dire.
Et ça sera signé. Alors déjà, si on peut pas avoir véritablement confirmation ces heures-ci, c'est parce qu'il y a la procédure de licenciement de Gustavo Poyet qui les empêche jusqu'à vendredi de dire ça y est, on l'a déjà remplacé. La deuxième chose, c'est que ça sera signé fin septembre. Et fin septembre,
c'est l'achat du club.
Mais le mercato sera fini.
Si Henry vient, il viendra avant.
Mais il y a 10 jours de mercato qui reste là en France. Donc ça veut dire que pour renforcer l'équipe.
Même non, un joueur par ligne, ça ne sera
joueurs,
pas suffisant.
Il prend deux joueurs. Non, ouais. c'est pas tout à fait vrai. Bordeaux a fini. Dans Bordeaux a fini sixième l'an dernier. C'est une équipe un peu trop moyenne,
mais
bien évidemment, qui est loin des quatre premiers, on est d'accord. Mais il ne faut pas forcément cinq joueurs pour transformer cette équipe de Bordeaux.
Non, mais là, c'est une fin de règne, c'est une fin de cycle.
Il ne faut, faut pas oublier la dynamique qu'il peut apporter. Laurent Blanc, quand il a pris Bordeaux, ce n'était pas génial non plus.
Il a mis un an quand même.
Laurent Blanc a mis...
Il a mis un an avant d'être champion.
Oui, mais deuxième, ouais. Il était deuxième la première année.
Ouais.
Alors, c'était une époque.
C'était une autre équipe qui avait été façonnée déjà par Vaïd.
Ouais,
ouais. Avec Ricardo et Vaïd. Les bases étaient là, quand même. À Bordeaux, quand il arrive, il y a quand même.
Vaïd?
Non, Ricardo.
Ricardo, pardon.
Vaïd et Lilotic, j'ai jamais vu au Girondin, moi.
Ricardo.
Mais je pense que Chéri Guémour a oublié une chose, c'est que les Girondins, c'est un club qui avait des structures très solides. Et depuis de très nombreuses années, c'était le premier club en France à avoir son propre centre d'entraînement, en l'occurrence, le château du Hayan. Donc c'est, et qu'ils ont récemment encore, ils ont redonné un petit coup de neuf pour le moderniser. Bon. Voilà, donc c'est un club qui a vraiment des structures solides. C'est un club qui a un centre de formation, qui sort effectivement pas 11 joueurs de très haut niveau par an, mais qui en sort régulièrement d'un bon niveau. Et dans l'équipe actuelle, il y a ces jeunes-là. Ils sont là. Il faut que, je pense, le vrai problème de Bordeaux et tous ceux, moi j'y vais souvent, encore une fois, je le répète, que je côtoie et qui sont là, qui savent ce qui se passe en coulisses, ils vous le disent. Le problème, c'est du management à Bordeaux. Il y a un problème, effectivement, d'autorité naturelle. Il faut un patron. Et il faut un patron technique. Et Thierry Henry, je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'il a, avec la force qui va lui être donnée par les nouveaux propriétaires, et avec la passion qui est la sienne, il peut apporter ce déclic.
Alors justement,
et donc
moi,
ensuite,
je voulais
provoquer peut-être le recrutement des 2-3 joueurs qu'il faudrait pour encadrer, et puis la révélation de certains jeunes qui ont du talent, mais qui manquent d'un environnement favorable pour éclore.
Moi, je voulais parler de son expérience, parce que justement, il a certes fait ses classes, mais il a surtout travaillé en doublure avec quelqu'un en Belgique, avec Roberto Martinez, hein, l'Espagnol qui est à la tête des Diables Rouges. Il travaillait surtout, et on l'a vu, puisque la Belgique a affronté la France en Coupe du Monde, il s'occupait surtout des attaquants. Ça suffit pour être un entraîneur tout seul et à titre principal, Philippe ?
Bon, il était numéro 3 du staff belge. Mm-hmm. Contrairement à la légende, il ne s'occupait pas...
Que des attaquants ?
Que des attaquants, et il ne s'occupait pas vraiment des attaquants. Il s'occupait à la fois des attaquants, il s'occupait des coups de pied arrêtés. Il avait quand même un certain nombre de missions, et la relation, en tout cas, avec Roberto Martinez était plutôt une relation de confiance, alors qu'au départ, Roberto Martinez était un petit peu dubitatif. Parce que, il voyait arriver dans ses pattes quand même un garçon qui est un monstre. Et il était bien placé pour le savoir, parce que Roberto Martinez a entraîné pendant des années en Angleterre. Et entre Martinez et Henry, l'échelle de la hiérarchie apparente
était
pas évidente. Mmh. Au contraire de cela, ça s'est fort bien passé. Henry a apporté ses choses. Il a apporté notamment son relationnel avec les joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient très attachés à lui, très très proches de lui.
On pense
à Kompany, on pense à l'avant-centre, bien sûr, Lukaku évidemment. Et donc, moi, je vois vraiment le profil que Thierry Henry peut avoir en tant qu'entraîneur.
Après,
Son manque d'expérience du terrain en tant que numéro 1, évidemment, sera un léger handicap. Mais franchement, au niveau de Bordeaux, je pense vraiment qu'il peut très très vite donner
Je pense le contraire, mais c'est juste pour vous apporter la contradiction. Je veux dire, Thierry Henry a l'expérience du foot anglais. C'est le management avec des pouvoirs, pouvoirs élargis. Et en Angleterre, voilà.
C'est le coach-manager, hein.
Ouais, mais il y a aussi, comment ça s'appelle, une latitude pour prendre des risques à peu près à tous les décisions. On arrive à Bordeaux, c'est encore la belle endormie. Je suis d'accord avec toi, il a des structures pérennes, si tu veux, mais ça fait des années que ça ronronne à Bordeaux. Donc à la limite, je vois arriver Thierry Henry avec sa dynamique, son expérience, son envie de faire bouger les choses. Soit il arrive une fois de plus, il fait vraiment le bon binôme avec le fonds de pension qui arrive, qui va l'accompagner, avec les joueurs qui arrivent. Il va dépoussiérer tout ça. Vraiment, il va enfoncer les portes, comme on dit. Et puis là, en effet, ça peut arriver. Ou alors, il va se retrouver face à une force d'inertie avec les structures, parce que
à laquelle se sont heurtés ses prédécesseurs.
Exactement, c'est ce qu'il disait. Mais
parce qu'ils n'étaient pas assez forts.
Dugarry, ancien joueur.
Parce qu'ils n'étaient pas assez forts, parce qu'il y a plein d'entraîneurs à Bordeaux venus de partout et qui ont réussi.
Comme il y a un changement de cycle et un changement d'investisseur, peut-être que justement on va dépoussiérer le Hayan.
Dugarry, qui a joué à Bordeaux à une certaine époque, lui s'est permis de dire ce matin, dans l'état actuel du club, je dis à Thierry Henry, surtout surtout n'y va pas. Surtout parce que toute l'année, tu vas te battre pour ne pas descendre et enfin essayer de bien travailler pour l'année prochaine. Donc c'est une année compliquée, pour ne pas dire exactement le mot qu'il emploie, mais il dit, ils vont recruter quoi, tes nouveaux dirigeants? Bref, lui, il aurait tendance à lui... Voilà.
Bah, Dugarry, c'est celui qui disait que l'équipe de France n'avait aucune chance de gagner la Coupe du Monde aussi.
Il a le droit d'émettre un avis sur Bordeaux qu'il connaît un peu aussi, Xavier.
Il connaît bien. En tout cas, c'est vrai que si on avait Thierry Henry, eh bien, ça serait le cinquième d'une génération dorée, qui était celle de 1998, qui s'asserrait sur un banc d'entraîneurs. Et écoutons justement Bruno Genesio. Il fait allusion à Zinedine Zidane et à ce genre de parcours.
Je trouve que c'est un parcours un petit peu comme a eu Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'il s'est formé, il a pris des postes différents pour s'impliquer dans la vie d'un groupe, pour prendre de l'expérience. Et puis, certainement qu'aujourd'hui, il se sent prêt à assumer ce rôle d'entraîneur. Et voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne démarche, à l'image de ce qu'a fait aussi Patrick Vieira, de se former, d'aller dans des clubs, avant de franchir le pas pour aller dans des plus grands clubs. Parce que ce sont des anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du foot français. Ça amène un éclairage, je pense, médiatique important. Donc, oui, c'est important d'avoir des personnages comme ça dans le football français.
Bah ouais, des personnages.
J'ajoute quand même un petit élément favorable. L'équipe de France est championne du monde. Zidane a gagné sa troisième Ligue des Champions d'affilée. Vieira revient en France. Il y a une focalisation. Il y a Mbappé aussi, évidemment, qui est devenu la vedette internationale, qui a marqué les esprits à la Coupe du Monde. Il y a un contexte français favorable. Il y aura les droits télé, comme tu en as parlé, à venir bientôt. Donc ça, c'est plutôt un élément favorable pour revenir maintenant et surfer un peu sur cette vague, parce que voilà, le football français ne laisse pas indifférent.
Mais au-delà, je trouve qu'il y a un élément intéressant, c'est que justement,
tu vois, j'ai l'entendu un peu.
Oui, ça me fait plaisir, shérif. Il y a que ces grands champions. J'ai on peur. Dit voilà. Ce que dit Dugarry, c'est quand même oui. Écoute,
il
n'y va
pas
parce que tu vas salir ton image. Moi, je trouve que ces grands champions qui ont à une époque bénéficié d'encadrants, d'éducateurs qui les ont aidés à devenir les champions qu'ils ont, aujourd'hui, ils ont la volonté de transmettre. Et tant pis si ça écorne un peu leur image de champion du monde.
Il s'en prend pas Thierry Henry, il s'en prend à l'état du club, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Non, mais il dit n'y va pas.
Oui,
il dit, n'y va
d'accord.
Pas. Donc là, eux, ils prennent le risque.
Tu vas te battre contre des moulins avant, c'est ce qu'il dit pour cette saison.
Je dis c'est bien, justement. Ils prennent le risque, au risque d'écorner leur image, de transmettre leur passion du foot et leur vécu aux plus jeunes.
Alors, de cette génération des cinq, on a évidemment Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Il y a eu Laurent Blanc, qui a été champion de France avec Laurent Blanc. Oui, bon, pour l'instant,
il est susceptible de redevenir entraîneur.
Le président est en retrait.
Ils sont en retrait.
Aussi, vous avez oublié Bernard Lama et Lionel Charbonnier qui ont été entraîneurs sous des latitudes autres, mais qui ont eu des petites expériences.
Un peu loin, mais en tout cas pas en
Bernard
France.
Bernard Lama au Kenya.
Pas en Europe. Patrick Vieira, il vient d'arriver dans le championnat de France. Alors lui, c'est l'aventure avec Nice. C'est un club qui est plus installé, on va dire, en ce moment. Mais c'est un pari aussi, finalement. Peut-être plus de la part des dirigeants de Nice que de la part de Vieira.
C'est la même catégorie de club. Et ça ressemble à ce qu'était Bordeaux quand Laurent Blanc l'a pris, à ce qu'était Monaco quand Deschamps l'a pris. Je trouve que c'est la deuxième catégorie. Ils rentrent dans des clubs qui sont deuxième catégorie, mais qui sont quand même des bons clubs. C'est-à-dire des clubs qui ont quand même un potentiel important, parce que ce sont des grandes villes et des clubs au moins qui ont un passé important et même récent pour ce qui est de Bordeaux.
Et puis, quand même, un public réceptif, en tout cas du côté de Nice.
Justement, aucun des deux pour l'instant ne convainc son public, mais justement, c'est ce que cherchent certainement les dirigeants. Parce qu'à Nice, il n'y a pas assez de monde et à Bordeaux, il n'y a pas assez de monde. Les deux clubs ont le même problème.
Mais on leur propose déjà des infrastructures.
Mais il y a les infrastructures, il y a les centres d'entraînement, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est important. Quand on est Thierry Henry, c'est difficile de débuter au Real Madrid direct. Il y a un cas, c'est Zidane, mais c'est quand même difficile.
Ça restera peut-être le seul,
mais
oui.
Il peut pas non plus démarrer à Dijon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il faut être honnête. Il peut pas non plus démarrer à Dijon.
C'est un vignoble aussi pour toi.
Oui, certes. Certes, mais il y a un moment où, il a une habitude de, si tu voulais, du haut niveau, d'un minimum de structure. Je pense que cette catégorie de club est la bonne pour débuter pour Vieira et pour Henry.
Après, pour Vieira, c'est différent. D'abord, c'est pas le même statut, évidemment. Thierry Henry, enfin, Vieira, mais surtout, c'est que...
En France, c'est Vieira, capitaine
de l'équipe de France.
J'ai pas fini. Surtout, Vieira, à la base, n'avait pas la vocation d'être entraîneur. On savait que Thierry Henry, comme tu disais, il a la passion du foot, et on savait que tôt ou tard, il en avait parlé, être entraîneur, enfin bon, bref. Et c'est pas le cas de Vieira. Vieira n'a jamais eu la vocation d'être entraîneur, il le dit lui-même. Voilà, c'est venu sur le tard. Donc, lui, au niveau des prétentions, il doit être un peu plus modeste, et Nice lui convient parfaitement. Avec déjà une équipe installée, un effectif et un fond de jeu. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Bordeaux.
On va partir du côté de l'Angleterre parce que avant qu'on s'attache spécialement à la Première Ligue, on est en ligne avec Jacqueline Bonnevet. Bonjour Jackie.
Bonjour.
Avant qu'on ne vienne à parler de votre rôle auprès de Claude Puel, j'avais une question. Thierry Henry, on l'annonçait aussi du côté d'Arsenal, du côté de Leicester, il est un peu partout en ce moment.
Bah, il est annoncé partout où il y a des incertitudes concernant les entraîneurs. Mais comme vous disiez, Thierry Henry, quelle expérience? Ben moi, je dirais non, il n'a pas d'expérience, si ce n'est celle de joueur. Parce que quand je vous entends parler de Vieira, il a quand même fait l'académie à City. Il a fait 3 ans New York City, ce qui est quand même une expérience. Et il arrive à Nice avec quand même certains acquis. Thierry Henry, il n'a jamais entraîné même les pupilles, cadets, moins de 17, CFA, il n'a rien entraîné, rien du tout. Donc c'est vrai qu'il a certainement beaucoup de talent. Je lui souhaite beaucoup de courage à Bordeaux. Ce n'est pas Willy Sagnol ni Jocelyn Gourvennec qui me contrediront. Mais j'espère aussi qu'il aura un staff solide parce que ce n'est pas une mission facile que d'aller à Bordeaux, il me semble.
Ouais, vous êtes d'accord avec Dugarry alors apparemment.
Non, ce n'est pas une question d'être d'accord. Non. C'est une question, Zidane, il a aussi entraîné l'académie. Faire des causeries, faire des équipes, faire des erreurs, faire tout un tas de choses permet de se préparer à ce métier d'entraîneur qui est ô combien difficile. Je suis bien placé pour savoir que assistant et manager ou entraîneur principal, comme on le dit en France, c'est un métier totalement différent. Assistant, on observe, on donne des conseils, mais on n'a pas la responsabilité de faire les choix, la responsabilité de gérer tout un tas de conflits par rapport aux joueurs qui ne jouent pas. C'est un métier compliqué, difficile, mais il est certain qu'il a un nom qui va lui permettre, je l'espère, d'avoir une certaine aura pendant un certain temps vis-à-vis des joueurs de Bordeaux.
Merci, Jackie, pour cet avis.
Et on... C'est pour commencer.
Oui, oui, on est tout de suite dans l'ambiance, mais on vous retrouve tout de suite parce qu'on va glisser vers l'Angleterre. En tout cas, on attend donc d'en savoir un peu plus pour ce qui est de cette signature qui pourrait arriver ces prochaines heures. Donc, Thierry Henry irait du côté de Bordeaux.
A response at last from Leicester. Albright with a cross. It's an own goal by Doherty and Leicester City lead. Maddison. Deflected. And in. James Maddison. Up and running in the Premier League for Leicester.
Ça chante du côté de Leicester, une première victoire pour les Foxes. L'équipe de Leicester City a gagné son match à domicile lors de la deuxième journée après un premier match perdu d'entrée face aux vice-champions d'Angleterre quand même, à savoir Manchester United. Mais en Première Ligue, si l'on veut rester compétitif et surtout si on veut décrocher l'Europe, eh bien tous les résultats peuvent être couperés pour un entraîneur. Alors, Jackie Bonnevet, rebonjour.
Rebonjour Annie.
Rebonjour
à tous. Xavier, chéri. Beaucoup d'attention la première partie. Hein.
Oui, n'est-ce pas? Alors Jackie, vous l'ancien joueur de Marseille et de Nice notamment, ancien entraîneur aussi Beauvais, Angers, la Turquie et puis le Japon auprès d'une sélection, vous voilà en Première Ligue. Ça vous tentait depuis longtemps d'abord l'Angleterre?
Bah, c'était assez inattendu. C'est vrai que la Première Ligue c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est quand même le championnat le plus regardé au monde. Et quand Claude m'a appelé pendant les vacances, ça m'a fait plaisir et puis il m'a proposé le poste. Dès l'instant où nous avions été remerciés avec Bailly de l'équipe nationale du Japon pour la Coupe du Monde, j'étais disponible et bien entendu, premièrement, travailler avec Claude, c'est quelque chose qui me faisait vraiment envie et plaisir. Et deuxièmement, la Première Ligue, c'est quand même... Ça se refuse pas, quoi.
Jusqu'à présent, vous l'observiez parce que vous supervisiez les joueurs japonais et donc de temps à autre, vous alliez du côté de Leicester.
Oui, je suis venu plusieurs fois au King Power Stadium parce que même sous l'ère Ranieri, je venais de temps en temps superviser au Kazaki. Comme j'avais cette mission d'observation des joueurs japonais évoluant à l'étranger, je connaissais quand même assez bien l'équipe parce que même si j'étais pas toujours présent Sur le terrain, je voyais énormément de vidéos pour superviser Shinji Okazaki, bien entendu. Mmh.
Alors Leicester, racontez-nous, c'est le titre inespéré en 2016 avec Ranieri, on se souvient, et surtout dans les rangs, eh bien N'Golo Kanté qu'on découvrait, il y avait aussi Riyad Mahrez, parti depuis ces deux-là, et puis Jamie Vardy qui est toujours là, le buteur. Vous avez aussi d'autres atouts. Quel est l'objectif fixé à votre équipe pour cette saison?
L'objectif déjà, c'est de prendre un très bon départ, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que après déjà la notre défaite et malgré un très bon match à Manchester,
très bon match, je l'ai vu.
Ouais, c'était un match de qualité. On ouais. aurait mérité d'ailleurs de faire un match nul.
Au moins.
72 000 spectateurs, une ambiance de folie et une intensité que j'ai rarement vue. Mais une défaite et zéro point. Donc on avait déjà une certaine pression par rapport à notre premier match à domicile contre Wolverhampton, que nous avons gagné avec difficulté, et puis je serais tenté de dire avec un peu de chance quand même.
Oui, mmh, effectivement. Ouais. Un but contre son camp, et ensuite un ouais. ballon détourné.
Mmh. Exact, et puis ils ont tiré deux fois sur les poteaux, donc ouais, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un petit peu de chance, qu'on n'avait pas eu justement à United une semaine plus
tôt. Un grand gardien à United, c'est Lucas Sobel ouais. derrière.
Exact, exact. Est-ce que, qui avait été très bon.
Est-ce que, Jackie, le défi pour Claude Puel et pour toi aujourd'hui à Leicester, c'est justement pas de transformer une équipe qui a été championne en 2016, il y a deux ans, en jouant le contre, et c'était vraiment une équipe de contre qui laissait délibérément le ballon à l'adversaire, en une équipe qui est capable de produire plus de jeux pour justement maîtriser mieux son destin?
C'est exactement la mission que souhaite inculquer Claude par rapport à sa philosophie de jeu. Mais une position positive en allant vers l'avant, en marquant des buts, en gagnant des matchs, c'est bien sûr ce qu'il souhaite faire. Et c'est pas du tout un jeu défensif pour contre-attaquer. Bien entendu, s'il faut de temps en temps contre-attaquer, on le fera. Mais c'est surtout la difficulté avec des joueurs d'un certain âge qui ont été champions, qui ont été quelque part pour certains un peu des légendes à l'image de Wes Morgan, notre capitaine, et qui sont toujours là. Alors progressivement, Claude essaie de transformer cette équipe en incorporant pas mal de jeunes joueurs, ce qui est le cas actuellement.
Beaucoup.
Et on espère. Moi, je suis persuadé qu'on a une bonne équipe. Après, on est très bien placé pour savoir que les gens en Angleterre n'ont pas vraiment beaucoup de patience et qu'il faut des résultats immédiats. Et que au départ, il faut prendre des points.
Mais Jackie, c'est étonnant. Bon, alors une fois de plus, hein, moi j'ai vu le match de Manchester United Leicester. Moi, je pense que c'est vous qui avez fait le jeu. Donc, au niveau du débat tactique, c'est tranché. Moi, j'ai vu une équipe cohérente qui balançait pas devant.
Et Mourinho a accepté de dominer, ça m'étonne.
ils ont la chance de marquer.
Ils ont la chance de marquer au bout de 3 minutes. Ils ont marqué la première minute.
Ils ont marqué au bout de 3 minutes. Après, bon, c'est Leicester qui a fait le jeu, il y a pas de problème. Moi, j'ai trouvé ça très cohérent. On passe par les lignes et tout ça. Il y a vraiment, pour moi, le fond de jeu, il commence déjà à s'installer. Et alors, c'est un peu le débat là qui nous occupe. C'est justement, la place des jeunes. Moi, je ne comprends pas avec. Il y a une volonté en Angleterre, dans le football anglais, c'est justement de promouvoir les jeunes anglais. Et moi, ce que je vois dans la composition des deux matchs, je vois quand ça s'appelle qu'on lance des petits anglais, des internationaux espoirs, et ça pose vraiment problème à ce point-là, parce que j'ai l'impression que
on est en pleine contradiction. À Leicester, t'as démarré Gray qui est très bon.
Oui, t'as Chilwell, défenseur. Alors comment que c'est perçu? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu.
On vous demande des résultats et en même temps, on pourrait vous critiquer si vous lancez des jeunes.
Ben oui, c'est un peu ça la difficulté. Donc faut lancer des jeunes et gagner des matchs.
Ouais.
Et puis il faut pas oublier que non plus, il y a des joueurs, même s'ils sont plus anciens, qui amènent leur expérience, qui permettent d'encadrer les jeunes. C'est la mission de Claude, c'est justement ce passage de l'après-titre qui a quand même eu lieu il y a maintenant combien plus de 2 ans, et puis d'aller dans un projet de jeu qui est bien entendu d'être efficace, parce que c'est bien beau de la possession et tout ça, mais si on n'est pas efficace et qu'on gagne pas des matchs, et ben on prendra notre valise, on sera remercié, ça c'est la règle du jeu, encore plus en Angleterre où les gens ils perdent pas de temps, et dès l'instant où on perd le premier match, déjà ils annoncent Thierry Henry ou plusieurs entraîneurs. Ça s'est un peu calmé entre temps. C'est peut-être maintenant, après j'ai vu qu'on annonçait peut-être Zidane à United. Donc on sait très bien qu'en Angleterre, en Première Ligue, j'ai bien compris que ça sera toujours comme ça.
D'ailleurs,
donc on aura un temps limité pour justement pouvoir incorporer des jeunes, faire des résultats et puis faire évoluer peut-être le jeu comme Claude souhaite le faire.
D'ailleurs, les fameux bookmakers sont assez évidemment voraces, font des paris et ils ont parié eh bien sur le mauvais sort de Claude Puel qui, selon eux, serait le premier entraîneur à sauter cette saison. Écoutons la réponse un peu philosophique justement de Claude Puel.
Tout ça, ce sont des spéculations. C'est prématuré en début de saison et c'est comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je serai très heureux pour mon successeur parce qu'il héritera d'une bonne formation, avec de bonnes bases, qui a de l'intensité, qui a une bonne mentalité, ce sera parfait pour lui.
Il vaut mieux être philosophique.
Vous voyez qu'il a de l'humour, Claude. Ah, il a de l'humour.
N'est-ce pas ? Il y a une question de Philippe Doucet pour vous, Jackie.
Oui, Jackie, je m'interrogeais sur ce que vous disiez tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure la mission de Claude Puel. La mission, mais c'est la mission que se donne Claude Puel dans une notion de manager à l'anglaise qui a le pouvoir. Une fois qu'on lui donne le pouvoir, il définit sa politique librement, ou c'est une mission qu'on lui a donnée en quelque sorte, de dire bon, il faut sortir plus de jeunes, il faut que le club soit comme ci, comme ça, de la part des dirigeants. Je m'interrogeais sur la notion de mission dont tu parlais tout à l'heure.
Non, c'est bien tout à fait différent. C'est-à-dire que le club, eux, il nous demande de faire un bon championnat, essayer de finir dans les 10 premiers, et Claude, dans sa philosophie, comme il a toujours fait, que ce soit à Monaco, quand il a débuté, d'ailleurs, il avait été champion à ce moment-là, que ce soit à Lille, que ce soit à Nice, peut-être un peu moins à Lyon, parce qu'il y avait déjà une équipe assez, même s'il a sorti des jeunes. Lui, son objectif, c'est de promouvoir les jeunes, et puis surtout d'essayer de trouver une bonne cohérence, comme il dit ici, une bonne balance entre, justement, les résultats, faire évoluer l'équipe, promouvoir des jeunes, et puis ne pas oublier les anciens qui sont là pour encadrer les autres. Les jeunes, c'est simplement sa mission à lui, c'est sa philosophie, c'est son objectif, et surtout son objectif premier, il est de bien jouer. Moi, je vois que tous les jours à l'entraînement, il fait chaque fois, allez, 15-20 minutes dans chaque session, enfin, chaque séance d'entraînement, il fait chaque fois une partie tactique où il explique clairement ce qu'il veut faire et comment il souhaite que son équipe joue. Voilà.
En tout cas, dans cette équipe, hein, vous avez quand même deux grands noms, on va dire, ceux qu'on a vus à la Coupe du Monde, à savoir Harry Maguire, qui est le défenseur dans l'équipe anglaise, et puis aussi Kasper Schmeichel, qui est le gardien de but, fils d'eux, comme on dit, le Danois, qu'on avait vu aussi arrêter un pénalty de Modric, hein, si oui, je me trompe ça, pas, ouais. À la Coupe du Monde.
Jackie Bonnevé. Jamie Vardy, incontournable.
Oui, toujours là, je l'avais dit Vardy tout à l'heure,
fait,
quand même.
Qui s'est fait expulser d'ailleurs le dernier match.
Carton rouge.
Carton rouge. Il va être suspendu 3 matchs. Il a pris 3 matchs fermes. Quand c'est un rouge direct, c'est automatique. 3 matchs fermes.
Il vous aide pas, hein. Jackie Bonnevé, une chose aussi sur l'ambiance autour du club, parce que c'est une petite ville d'Angleterre, Leicester, et en même temps une ville de rugby. Ça, on connaît aussi bien le club qui va souvent loin en Europe, mais les supporters sont au rendez-vous souvent, et c'est un stade qui, ce qui est banal en Angleterre, vous me disiez, on joue à guichet fermé tous les week-ends, enfin tous les 15 jours.
Moi j'ai fait les deux premiers matchs, Manchester United, Leicester, 72 000 spectateurs, Leicester, Wolverhampton, 32 000. Le taux de remplissage en Angleterre est de 96%, pour être précis. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis pour dire aussi une chose, c'est que ce championnat Premier League est diffusé dans 190 pays. Donc c'est vrai que c'est passionnant. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est l'intensité. Alors souvent, quand on est en France, on dit oui, dans une équipe, il faut des temps faibles, des temps forts, etc. Et moi, je suis assez surpris. Je sais pas si ça va durer encore comme ça longtemps, mais c'est toujours à fond tout le temps. Oh, c'est impressionnant.
C'est le début de saison, c'est pour ça.
C'est le début de saison, mais c'est comme l'entraînement. C'est court, mais c'est à fond tout le temps.
Mais ce qui est impressionnant, et c'est marrant que Jackie le relève, c'est que moins il y a d'anglais dans ce championnat, Et plus c'est comme avant, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est exactement comme avant. Il y a beau y avoir plein de joueurs espagnols, plein de joueurs plus techniques qu'avant,
des
plein
entraîneurs
de coachs
aussi,
plein de coachs, etc. Mais il y a une mentalité. C'est là où l'identité est très forte. Ce championnat a gardé une identité à la fois au niveau tribune, au niveau terrain, incroyable, alors que tous les gens qui semblaient l'incarner, c'est-à-dire les Anglais qui aimaient le jeu bourrin, etc., ne sont plus là. Et les joueurs qui jouent comme ça ne sont plus là non plus, à part peut-être à Wolverhampton.
Oui, mais quand même, faut pas oublier de dire que c'est plus du kick and rush. Il y a de l'intensité, mais il y a une qualité technique assez incroyable qui est amenée par pratiquement les meilleurs entraîneurs sont présents en Premier League. Il y a tout un tas de gens expérimentés, connu, qui essaie de bien faire jouer les équipes, mais qui n'oublie surtout pas l'intensité, qui plaît énormément au public, qui est très très réactif.
Xavier.
Oui, oui, Jackie, Annie évoquait tout à l'heure que Claude Puel était bien placé pour la sac race, hein, c'est cette fameuse, ces fameux paris sur les entraîneurs qui vont sauter et que d'ailleurs on présente de temps en temps dans le 11 d'Europe sur Canal+. Ce week-end, il se trouve que Leicester va à Southampton où Claude a fait une seule saison. Et depuis son départ, en fait, ils ont déjà usé trois entraîneurs maintenant. Ils en sont au troisième.
Ils ont fini combien?
Et l'an dernier, ils ont failli descendre.
Non, Southampton, 17e.
Ils ont failli descendre la saison dernière. Est-ce que justement, il y a un peu un challenge personnel pour Claude à préparer ce déplacement avec les Foxes à Southampton?
Je pense que Claude n'est pas du tout dans une espèce de revanche. Ça s'était très bien passé pour lui au niveau des résultats à Southampton. Il a été remercié en fin de saison. Tout le monde se demande un peu pourquoi d'ailleurs. Mais il est certain qu'il aimerait faire des bons résultats là-bas. Southampton a perdu son dernier match. Je connais aussi bien ce club de Southampton parce que je supervisais aussi Maya Yoshida, le défenseur central, donc je l'ai vu jouer assez souvent. Pour revenir à votre question, non, Claude, il voudra faire les meilleurs résultats possibles. Surtout que n'oubliez pas non plus que notre prochain match à Leicester, nous recevons Liverpool. Oh donc c'est déjà du lourd. Hein,
et vous n'êtes pas le calendrier.
Bah après, quand même, on va. Ouais. Après, on aura des moments peut-être un petit peu plus confortables, même si je me rends compte que tous les matchs sont difficiles, à l'image de Brighton qui a gagné 3-2 contre United dimanche dernier. Hein.
Exactement. Ouais. Une dernière petite question avant de conclure, Jackie Bonnevé. Parlez-nous du propriétaire de ce club de Leicester. C'est un Thaïlandais très riche. Est-ce qu'il s'y connaît en football?
Ça, je peux pas vous répondre. Moi, je l'ai rencontré, on a mangé ensemble, on a parlé de choses et d'autres. Il est vivant, il s'intéresse à son club. Ça fait 8 ans qu'il est ici. Il a un nom assez très très compliqué, Bichai, avec un nom énormément de lettres. Il est passionné, il est, je pense aussi très très impatient. Il a investi énormément d'argent. Il a refusé une proposition à l'intersaison. McBoy était demandé par United 80 millions de pounds. Il a refusé. On a investi pas mal de joueurs. On a pris Gezal, on a pris Soumyoukou de Fribourg, on a pris Benkovic. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été recrutés. Donc à partir de là, lui, il veut des résultats. Voilà.
Bon. Eh bien, on suivra particulièrement Leicester grâce à vous cette saison. Merci beaucoup.
C'est gentil, j'ai beaucoup de supporters sur RFI, c'est excellent.
D'accord. Merci beaucoup, Jackie, et bon courage alors à vous, à Claude Puel et à toute cette équipe de Leicester dans le championnat de Premier League.
Merci Annie.
À bientôt.
À bientôt, au revoir à tous.
Quand on parle de football en Chine, hein, tout d'un coup, ça s'excite. Les buts, en tout cas, permettent aux commentateurs de s'exciter un peu au micro. La Chine, ce pays lointain dont finalement, on revient. On s'est habitué depuis plusieurs saisons à voir les joueurs partir pour l'empire du milieu qui veut développer son championnat et la pratique du football. Et ces joueurs qui doublent, quadruplent, décuplent leur salaire. Les premiers nous semblaient plutôt en fin de cycle, les premiers joueurs à partir. On se souvient notamment de Didier Drogba qui avait été un des premiers à partir pour beaucoup d'argent au Shanghai Shenhua. À l'époque, c'était un riche aussi homme d'affaires qui avait pris ce club et il partait après Chelsea. Mais il était revenu. Il était revenu à Galatasaray et ensuite, on l'avait revu à Montréal. Il y a eu Frédéric Kanouté. On a essayé de trouver un peu un John Obi Mikel aussi pendant un moment. Il y a eu aussi d'autres vagues, notamment Ezequiel Lavezzi quand il est parti du Paris Saint-Germain. On a vu pas mal de Brésiliens. Et puis, on a vu aussi des joueurs revenir et ils reviennent en essayant d'être compétitifs. Ces derniers jours, on a eu Gervinho qui jouait à l'AS Roma, qui était parti, donc l'Ivoirien, champion d'Afrique. Il était parti vers une équipe chinoise et là, il vient de signer à Parme. C'était vendredi en Serie A. Axel Witsel, le Belge, a signé à Dortmund alors qu'il était parti en Chine au lieu d'aller à la Juve. On a aussi le Camerounais, ancien Marseillais, Stéphane Biya, jouait aussi à Séville. Il a été deux fois champion d'Europe. Et bien, après deux saisons au Hebei Fortuna et 10 buts, il se dit prêt à tout recommencer avec le TFC à Toulouse.
Je repars de zéro. Pour moi, je repars de zéro. Il faut prouver. Vous savez, le monde du football aujourd'hui, font une remise en question constante. Donc je pense que je suis là, et les joueurs qui sont là, ceux qui sont à mon poste, ceux qui sont... j'ai la chance de pouvoir être polyvalent et pouvoir, donc il faut que je mette la pression au titulaire pour pouvoir avoir une place de titulaire au sein du groupe. Il faut déjà se faire accepter, et pour ça, ça passe par des performances à l'entraînement qui vont tout simplement me faire adopter.
Deux saisons en Chine, est-ce qu'il peut avoir perdu son football d'une certaine façon, Xavier ?
Non, moi je pense pas. Il se trouve que j'ai commenté le championnat chinois pour ma chaîne sport pendant plusieurs saisons, et Eurosport aussi pour les Coupes d'Asie, et c'est un championnat qui progresse, mais qui progresse lentement. Le niveau progresse lentement. Et donc, des joueurs, surtout des joueurs en fin de carrière comme Bia, qui ont la perspective de peut-être encore jouer au niveau international, ils peuvent pas attendre que ça évolue pour arriver à ce niveau-là. Je donnerai une seule information en complément. Clarence Seedorf a communiqué la sélection camerounaise.
Et
il a écarté Christian Bassogog, qui joue au Henan Jingye, et Benjamin Mukanjo, qui joue au Beijing
Ancien
Grenier,
capitaine. Hein.
Parce qu'il leur a dit clairement, le championnat chinois, c'est pas un niveau suffisant pour la sélection nationale du Cameroun. Donc, je pense que Mbia, même s'il est aujourd'hui plutôt jeune, il est un peu dans cette logique. Aujourd'hui, si vous êtes en Chine, vous êtes un peu à l'écart du monde international. Hulk et Oscar, les Brésiliens qui gagnent beaucoup d'argent au Guangzhou Evergrande, eh bien, au SIPG, pardon, de Shanghai, ont perdu leur place en sélection du Brésil, et il y a plein d'exemples comme ça.
Oui, donc, mais il y en a d'autres, des exemples, parce que Paulinho, par exemple, était venu de Chine, le Brésilien, au Barça, et il a fait une saison, on n'avait pas l'impression qu'il avait, au contraire, on a même découvert que c'était plutôt un bon joueur.
Je trouve, et ça s'applique à tous les pays dits exotiques, et la Chine en fait partie, il y a de moins en moins de voyages sans retour. Avant, c'était il est parti là, c'est voilà ce que dit Clarence Seedorf, ce qu'il a dit à Mukanjo et compagnie. Oui, vous avez choisi l'argent, ça veut dire que ça veut dire en gros vous aimez
vous plus
le foot
plus,
ou vous êtes près de la retraite, vous profitez prenez l'argent et puis débrouillez-vous, mais le football c'est terminé pour vous. C'est ce qu'on tout le monde pensait ça avant. Vous alliez au Qatar, en Arabie Saoudite, en Russie même la Russie était dans cette catégorie. La Chine, etc. Vous partez là-bas, ça veut dire que vous êtes en pré-retraite, c'est terminé, plus de sélection, on vous appelle plus, et vous ne reviendrez jamais. Aujourd'hui, depuis Paulinho, c'est vraiment à l'inverse dont auquel on assiste, c'est-à-dire les joueurs reviennent. Plein reviennent. Et les clubs les réengagent comme si de rien n'était, alors qu'ils ont passé parfois 2-3 années en Chine, en Arabie Saoudite ou autre.
Je crois que Paulinho et le Barça, là, c'est quand même une exception, non? Parce que
c'est parfois
des petits clubs.
Vous venez de citer, Germinho revient, Witzel revient. Ouais. Vous citez plein de joueurs qui reviennent. Alors, et les clubs n'ont plus de gêne, et même des grands clubs comme Barcelone, on était sidérés l'année dernière quand ils ont pris Paulinho. On s'est dit, ils s'en foutent, ils jouent en Chine.
Et Witzel a fait une bonne Coupe du Monde avec la Belgique.
Alors qu'aujourd'hui, même les grands clubs n'ont plus peur, au contraire, de rappeler ces joueurs. Ce qui veut dire que j'étais à la fois pas d'accord avec toi, Xavier, mais en même temps d'accord que le championnat progresse et que la vision extérieure n'est quand même plus la même, visiblement, et les joueurs reviennent de ce championnat.
Shérif.
Non, c'était pour confirmer. mais c'est.
Entre les deux
projet.
Au milieu.
Par contre, j'avais une question à poser à Xavier, mais le truc, c'était que justement, moi, je voulais savoir où on en était dans la progression du football en Chine, notamment au niveau du championnat, qui avait énormément d'affaires de corruption. Bon, visiblement, ça commence à se tasser. Tu dis que c'est un championnat plus compétitif. Ça n'empêche pas, quand on joue en Chine, on va reparler un peu des Brésiliens, Renato Augusto, il y est, il a rejoint la CSAO cette Coupe du Monde, il a été blessé, mais sinon il aurait pu être titulaire à pas mal de matchs, donc faut relativiser. Il y a des joueurs encore de valeur comme Oscar, Pato, bon c'est plus trop ce qu'il vient, mais ils sont là-bas, évidemment, et on aura du mal à les retrouver en CSAO, mais... Bon, c'est quand même des joueurs qui ont encore un bon niveau.
Bakambu, qui était le grand transfert africain de l'année dernière, est sur le point de revenir. On en parle beaucoup à Valence ces derniers jours. Ça veut dire
Ramirez serait sur le point de revenir en Europe aussi. Avant ça, quand même, la vie d'un joueur, et c'est Carlos Tevez qui était parti là-bas, on se souvient. Alors lui, c'était plutôt pré-retraite, voire retraite, qui a passé quelques temps, c'était le joueur à ce moment-là le plus payé, c'était 38 millions d'euros, je crois.
Au Shanghai chinois sous la coupe de Gustavo Poyet.
Exactement. écoutons ce qu'il en a ramené de souvenirs après 10 matchs et 2 buts.
Ils ne sont pas doués techniquement de façon innée comme peuvent l'être les Sud-Américains ou les Européens. Des joueurs qui apprennent le foot dès l'enfance. Techniquement, ils ne sont pas bons. Le foot est différent là-bas, les gens ne le vivent pas de la même façon. Je pense même que d'ici 50 ans, ce football ne sera pas compétitif.
Il a préféré revenir jouer à Boca Juniors.
Oui, ils ont surtout pas cherché à le retenir parce que ça s'est tellement mal passé pour
problème Carlos d'adaptation Tevez. Générale, on va dire.
Voilà, oui, on l'a plus vu à Disneyland à côté de Shanghai qu'au centre d'entraînement. Donc, ça s'est très mal passé pour lui et Gustavo Poyet l'a payé d'ailleurs puisqu'il a été viré assez vite du club alors que c'était pas lui qui avait fait le recrutement. Bref, il y a effectivement, c'est organisé à la chinoise en fait. C'est-à-dire que tout est prévu.
Club en première division.
Voilà, tout est prêt et organisé. Le Guangzhou Evergrande qui est le club phare qui était entraîné par Scolari et qui est maintenant entraîné par Cannavaro.
C'est là où était passé Tigana aussi, hein, je me trompe pas.
Non, je crois que c'était Shanghai chinois.
Ah, Shanghai, oui, peut-être. Ouais.
Et donc le Guangzhou Evergrande a 2000 jeunes chinois dans son académie. Voilà, parce que là-bas ils sont tellement nombreux.
Ils sont 1,5 milliard.
Et ils espèrent sortir effectivement des champions à horizon 2030.
Le point de départ, c'était une volonté étatique, politique et étatique.
Stéphane Lagarde est venu nous le raconter un jour. C'était effectivement une décision du président.
C'est du soft power, donc comment la Chine peut rentrer dans la mondialisation par l'économie et par le sport, comme l'a fait le Qatar.
Mais elle met du temps, à y arriver.
Mais parce que en fait, il n'y a pas vraiment de vocation. En plus, avec la politique de l'enfant unique, même si elle a été arrêtée, les parents prennent le risque de mettre leur gamin pour qu'il devienne footballeur. Il va se retrouver noyé dans une académie au milieu de 2000 autres. Et puis, c'est pas vraiment une vocation. Les gamins, ils vont là-bas presque comme ils vont au boulot. Alors que ce que disait Tevez, c'est que les gamins dans les rue de Buenos Aires, mais c'est comme ça partout en Afrique ou ailleurs. Ils jouent au football parce qu'ils ont envie de jouer. Ils prennent un ballon.
Il y a une culture foot de jouer au ballon. Ceci dit, quand les Chinois mettent les moyens dans certains sports, on les a vus par exemple en escrime. Avant, la Chine n'existait quasiment pas. Ils sont allés chercher des maîtres d'armes en France, et là maintenant, ils commencent à rapporter des médailles.
Dans les sports olympiques en général.
C'est plus dur en foot.
À mon avis, c'est plus dur en foot. Voilà.
Celui qui a eu une mauvaise expérience, on va dire aussi, qui est revenu, c'est Guillaume Moirot, qui était parti là quand le PSG a changé de dimension et qui a préféré lui revenir jouer. Il est du côté de la Suisse, je crois que c'était
sûr. Il joue ce soir en Ligue des Champions d'ailleurs.
Je suis pas resté parce que c'était invivable dans le sens où vous savez, quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de parasites. Donc des personnes qui ont voulu s'immiscer et récolter un peu ce qui leur était pas dû. Le foot, c'est ma vie, donc je peux pas dire que j'étais que pour l'argent. Je savais que j'allais aussi jouer au foot, donc il fallait aussi être bon. Mais tout le contexte autour de moi était vraiment corrompu et c'était difficile.
Voilà, c'est l'allusion aussi au problème dans ce contexte,
Il y a certains joueurs, ils y vont pas pour les bonnes raisons non plus, donc ils savent beaucoup à quoi s'attendre. C'est du deuxième, troisième choix, donc...
Quel est le niveau de ce championnat, vous qui l'avez commenté, Xavier?
Moi, je vois que c'est un niveau des deux en France, par rapport à la France.
Des deux
C'est pas mal,
ça progresse. Maintenant, le gros problème de ces équipes chinoises, c'est qu'ils prennent une colonne vertébrale de joueurs étrangers, alors ils n'ont plus le droit qu'à 3 maintenant. Non. Il y a deux ans, ils avaient droit à 4 joueurs étrangers, dont un asiatique. Souvent, ils prenaient un libéro coréen et puis des brésiliens et des européens. Et donc, là, maintenant, ils n'ont plus le droit qu'à 3 étrangers. Et souvent, ils ont le libéro, le meneur de jeu et le buteur.
Mais est-ce qu'ils ont apporté aux joueurs chinois qui sont autour d'eux?
Oui, parce que après ces joueurs chinois, évidemment, ils prennent exemple sur les joueurs.
Non, mais Xavier, ça commence par les enfants. C'est les enfants. Est-ce que ça les fait rêver? Ça, parce que les autres joueurs, finalement, tu leur feras pas les autres joueurs. Les mecs sont à l'académie encore, c'est pareil. Moi, je parle des enfants.
Eh ben voilà. On en reparlera des petits chinois. Merci beaucoup d'avoir participé. Exactement. Au football.
Tu vois, au Japon, les mômes, ils peuvent rêver de Mbappé au Japon. En Chine, je sais pas.
Merci beaucoup. Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission et à Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. À demain.